Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Il m'a dit, maman, un quart d'heure. Moi, j'ai attendu. Je n'ai pas fermé les portes. J'attendais mon fils. Vers 23h, j'ai dit, tiens, Stéphane n'est pas rentré. Il m'a dit, maman, un quart d'heure, une demi-heure. Et j'attends toujours mon fils.
Bonjour, Stéphane Dietrich avait 24 ans quand on l'a découvert mort, poignardé près de Belfort. Une nuit de l'été 1994, c'était un jeune homme tranquille qui poursuivait des études économiques et se préparait à une carrière financière. Un meurtre commis avec acharnement, tout aussi brutal qu'incompréhensible. L'enquête va se retrouver en panne d'indices et de témoignages et la justice va refermer le dossier. La famille de Stéphane ne va jamais accepter ce silence. Elle va inlassablement continuer à demander la vérité. Une longue marche de patience, de ténacité, jusqu'à ce que 20 ans plus tard, un personnage surgisse dans le décor. Il était l'un des meilleurs amis de la victime et cette amitié aurait fini par tourner à l'obsession, à la préparation d'un crime et au passage à l'acte. Quel est le scénario qu'ont fini par découvrir les enquêteurs et quel secret fatal aurait partagé l'assassin et sa victime? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort longtemps inexpliquée de Stéphane Dietrich. À l'été 1994, le jeune homme est retrouvé poignardé dans un coin isolé près de Belfort. La victime a été sans doute attirée dans un piège. Mardi 5 juillet 1994, à 7h40, un correspondant anonyme contacte le commissariat de Belfort pour signaler la présence d'un corps au Bois Joli, à Essert, une commune toute proche. Le malheureux serait mort poignardé. Les policiers sont aussitôt sur place. L'individu gît sur le côté, en partie dévêtu, habillé d'une chemisette tachée de sang. Il a toujours ses chaussettes et ses chaussures, un short propre, exempt de taches, et juste à côté. Il n'y a pas beaucoup de sang sur les lieux, un endroit caché dans les broussailles, jonché de détritus et qui pourrait être un lieu de rendez-vous. Le légiste indique que la mort est survenue entre 8 et 24 heures avant la découverte. L'homme présente 11 plaies, la lame d'une quinzaine de centimètres s'est enfoncée parfois profondément, sectionnant l'aorte, pénétrant le poumon gauche et l'intestin. Le jeune homme, non identifié, ne s'est pas défendu. Peut-être se sentait-il en confiance ou a-t-il été surpris. Le médecin ne relève aucune trace de viol ou de relation sexuelle. En milieu de matinée, Roland Dietrich et Christophe Blin débarquent au commissariat. L'habitante de Belfort vient signaler la disparition de son fils, Stéphane, 24 ans, étudiant. Il vit chez elle. Il n'a plus donné de nouvelles depuis la veille. Il porte un short rayé gris et noir, une chemise orangée, une gourmette en argent. Stéphane Dietrich est bien le mort découvert aux premières heures de la journée. Christophe Blin, 25 ans, qui accompagne la maman, est aussitôt entendu. Il est là car il est un ami proche de Stéphane. Ils se sont connus au lycée. Il devait partir le jour même en vacances, direction Grenoble, Antibes, puis un séjour à Paris, tout était prêt. La veille, il est passé à 22h chez les Dietrich pour discuter avec Stéphane. Il l'a accompagné en voiture jusqu'à un distributeur bancaire. Stéphane lui a ensuite demandé de le laisser à la fête foraine. Il m'a dit qu'il avait un truc à faire. Je lui ai proposé de l'attendre, mais il m'a répondu qu'il se débrouillerait pour rentrer chez lui. Je l'ai laissé, dit Christophe Blin. Il dit avoir passé la nuit chez sa petite amie Carole. Il précise que Stéphane avait oublié sa carte bancaire dans sa Renault 5. Il l'a remise ce matin à Roland Dietrich. La maman ne comprend pas ce que son fils est allé faire à cette fête foraine. Pourquoi est-il sorti simplement vêtu d'un short, d'une chemisette? Pourquoi encore? Il n'a même pas emporté ses clés. Roland Dietrich raconte qu'en partant, son fils lui a dit qu'il en avait pour 15 ou 30 minutes. Quand ce matin, elle a appelé Christophe Blin pour lui dire que Stéphane n'était pas rentré de la nuit, celui-ci lui a répondu « Mais vous me faites peur, Madame Dietrich. » Jeudi 7 juillet, Christophe Blin, dernière personne à avoir vu vivant Stéphane Dietrich, est interrogé. Il raconte son amitié avec la victime, évoque au passage de possibles penchants homosexuels de son ami, mais précise qu'il n'y a jamais eu de geste équivoque entre eux. Les policiers vérifient la piste de la fête foraine où peut traîner parfois une faune peu fréquentable, mais ils en reviennent toujours à Christophe Blin. Ils soupçonnent une relation cachée entre les deux hommes. Une dispute aurait-elle éclaté? Sur des écoutes, Carole, la petite amie de Christophe Blin, raconte que ce dernier a perdu 12 kilos dans les 15 jours qui ont suivi le drame. À propos de la police, elle dit « Il pense vraiment que c'est lui ». Les enquêteurs s'aperçoivent encore que Christophe Blain était titulaire d'un compte bancaire en actions alimenté par l'argent de la victime. 7 septembre, 2 mois après le crime, Christophe Blain est en garde à vue. Il dit avoir vendu les actions et compter restituer l'argent à la famille. Il n'a rien fait de mal à son copain de lycée. Libéré après 24 heures de garde à vue, l'enquête ne va plus bouger. 15 octobre 2001, le juge délivre un non-lieu. Et à partir de ce non-lieu, eh bien, les investigations s'arrêtent. Les proches de Stéphane Dietrich vont continuer à s'interroger, à s'agiter, mais à ce stade, on ne les entend pas, ou peut-être on ne veut pas les entendre, à croire que cette affaire va finir aux oubliettes judiciaires. Il va falloir attendre 12 ans pour que cette histoire reparte. On va en parler dans la suite de l'heure du crime. Pour le moment, il nous faut revenir à Essert, dans la banlieue de Belfort, avec cette scène de crime. Bonjour Marion Garnier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes rédactrice en chef d'une émission qu'on connaît bien, c'est Non Élucidé sur RMC Story, que je regarde avec attention cette émission. Et puis vous êtes co-auteur avec Cyrielle Adam, qui est avec nous également aujourd'hui. Bonjour Cyrielle.
Bonjour.
Co-auteur du livre Cold Case, qui sort aujourd'hui aux éditions Larousse, et dans lequel évidemment vous évoquez cette affaire Stéphane Dietrich. Alors il y a Marion Garnier, il y a cette scène de crime... C'est d'une très grande brutalité. À la fois, mais à la fois, on a poignardé très puissamment, puis parfois pas vraiment puissamment. C'est très étrange.
C'est très étrange parce que c'est effectivement une scène de crime, un crime extrêmement violent, puisque la victime a reçu 11 coups de couteau, certains très violents, d'autres un petit peu moins. Mais ce qui est très étrange aussi, c'est qu'il n'y a aucune trace de défense. Et qu'il n'y a aucune trace de lutte non plus dans la forêt. Donc on se dit dès le départ que c'est un crime de surprise. Par surprise, la victime n'a pas vu l'agresseur arriver, n'a pas vu l'agression arriver.
C'est ça. Cyrielle Adam, ça voudrait dire que ça pourrait être un guet-apens, tout simplement ?
Probablement, probablement. D'ailleurs, il y a plusieurs zones de lésions sur le corps de Stéphane Dietrich, dont une première zone dans le dos. Donc on peut penser que la victime
a été attaquée à son insu, bien
tout
sûr.
Tout à fait.
Et donc ça surprend les policiers. Le coin, il n'est pas forcément très bien fréquenté, Marion.
Le coin, ce serait un coin de rencontres, de couples homosexuels, surtout de rencontres. En même temps, on dit souvent ça de tous les lieux à la périphérie des villes. Et très souvent, quand il y a un crime dans un bois à la périphérie d'une ville, on dit c'est un lieu de rencontre. Donc, vrai ou faux, je ne sais pas exactement. Ce qui, par rapport au lieu, ce qui est important aussi, c'est qu'au départ, les enquêteurs ont le sentiment que c'est le lieu de découverte du corps et non pas le lieu de la commission du crime. Parce que les vêtements de la victime ne sont pas mouillés, alors qu'il a plu très fort toute la nuit, et qu'il n'y a pas beaucoup de sang. Cette première constatation sera après démentie par les différentes expertises, mais elle fait parler cette scène de crime au départ. Il y a différentes théories qui sortent de cette scène de crime.
Elle n'est pas très claire. On a pensé que le corps avait été tiré au sol.
Peut-être même aurait-il été tué ailleurs et déplacé ici.
Tout à fait. Bonjour Sylvain Dietrich.
Bonjour Jean-Alphonse, bonjour aux auditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes le frère de Stéphane Dietrich. Et je vous tire mon chapeau, Sylvain Dietrich, parce que sans vous et sans votre maman, aujourd'hui cette affaire, elle serait encore aux oubliettes. Vous êtes battu pendant des années pour avoir la vérité et vous l'avez obtenue, cette vérité. On va évidemment en parler. Sylvain Dietrich, lorsque vous apprenez la mort de votre frère, je ne vous parle même pas si c'est un choc ou pas, je ne vais pas vous poser la question, mais vous pensez à quoi ? Parce qu'il a été tué.
Mais tout de suite, on évoque un lieu, la fête foraine. Et donc, pour moi, si vous voulez, je ne comprends pas. Parce que ce n'est pas un lieu où il se rendait, habituellement. Et si vraiment il avait été sur ce lieu-là, il ne serait certainement pas allé tout seul. Donc il y a quelque chose qui... Alors déjà, l'événement... Plus le lieu, c'est embrouillé dans nos esprits, à ma famille et à moi.
Est-ce que Stéphane, c'est un garçon secret, discret, il vous dit pas tout ?
C'est pas le cas. C'est quelqu'un qui, on va dire, marche après marche, élaborait, sa vie, son devenir.
Ce qui est bien normal, il a 23 ans, c'est normal.
Tout à fait. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que quand on voit maintenant, on voit encore les dernières statistiques, les tanguis qui restent jusqu'à 27, 28 ans à la maison. Donc, c'est vrai que beaucoup d'enquêteurs ont voulu qu'il soit marié, qu'il ait des enfants, qu'il fasse ses études, il y avait un truc qui n'allait pas non plus, si vous voulez. Il y avait des enquêteurs qui aussi étaient dépassés par les événements. Pas tous, mais beaucoup étaient dépassés par l'événement. Et c'était l'été, il y a des personnes qui sont en congé, et...
Ce que vous nous dites, c'est que l'enquête, elle démarre pas très bien, finalement, c'est ça ?
Exactement.
Hein ? C'est souvent le cas en plein été, etc. Les meurtres du 15 août, ils sont fatals, parce qu'effectivement, c'est toujours très compliqué d'avoir du monde sur place. Cyrielle Adam, j'ai oublié de dire que vous étiez, vous, rédactrice en chef de la collection Enquête Chrono sur RTL9. Il y a ces affaires d'argent aussi. Tout de suite, on dit, il avait un compte qui était alimenté par Stéphane. On parle là de son copain, Christophe Blain.
Ce qui est sûr, c'est que Stéphane Dietrich, c'est un étudiant brillant en économie, il est major de promotion et il a une passion pour l'économie, pour la bourse. D'ailleurs, Christophe Blain dira qu'au moment où ils étaient ensemble au lycée, il avait été très admiratif d'un exposé que Stéphane Dietrich avait fait sur la bourse. Voilà, on a tout ça. Après, pour le reste, dans... Et matériellement parlant, il n'y a pas grand-chose dans le dossier qui vient étayer ces histoires-là.
Marion Garnier, un mot sur Christophe Blain. Ils sont très amis, tous les deux. Il est très ami avec la victime, c'est pas même son meilleur ami. Peut-être.
Ils sont très amis et très différents. Ouais. C'est-à-dire que Stéphane est quelqu'un de très sérieux, qui suit des études brillantes, qui grandit dans une famille unie, avec des échanges plutôt intellectuels, où on s'intéresse à la politique. Et Christophe Blain, de son côté, est dans une famille difficile, a arrêté ses études, reprend ses études grâce à Stéphane. Stéphane évolue dans un milieu où il y a beaucoup plus d'argent que chez Christophe Blain.
C'est un peu son mentor, finalement. C'est ça,
Peut-être. Ils ont des qualités différentes. Christophe Blain est plus sportif que ne l'est Stéphane. Christophe Blain a une personnalité un petit peu différente selon les milieux dans lesquels il est. Dans la famille Dietrich, il est plutôt introverti. À l'extérieur, il travaille comme pigiste dans un journal local. Là, c'est quelqu'un de drôle, qui parle beaucoup. Ils sont différents et très amis, presque complémentaires. On pourrait se dire ça au départ.
Sylvain Dietrich, juste un mot là-dessus. Christophe Blain, vous le voyez souvent à la maison ?
Ah oui, il s'invite souvent.
C'est ça, il est souvent là.
Ah oui, il s'invite.
Et sympathique comme garçon.
Alors, je dirais que...
À l'époque, soyez franc, à l'époque, comment vous le voyez ?
Non, je dirais pas forcément ça. Je dirais que on respectait cette amitié qu'ils avaient.
C'est ça. Voilà. Ça vous regardait pas, finalement.
Voilà. Mais juste parce que vous souhaitez... me pousser, mais je pense simplement donner les informations par rapport à mes parents. Ma maman était très 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 sociable, elle le recevait facilement. Et puis après, donc mon père, en revanche, ne l'appréciait pas du tout. Il n'appréciait pas cette personne.
Voilà. 12 ans après le non-lieu, le dossier va être rouvert. Lundi 4 février 2013, le procureur de Montbéliard rouvre l'enquête Dietrich. Quelques mois auparavant, la mère et le frère de la victime ont été longuement entendus par les enquêteurs. Ils ont émis des doutes sur le témoignage de Christophe Blain. On ne le suspecte pas d'avoir fait du mal à Stéphane, mais on pense qu'il cache des choses, répètent Roland et Sylvain Dietrich. Des expertises ADN sont lancées sur les scellés du crime, des prélèvements effectués il y a 20 ans sont analysés, un ADN masculin inconnu apparaît sur la scène de crime, notamment sur le slip et le bracelet montre de la victime, ADN qui toutefois ne correspond pas au profil génétique de Christophe Blain. Lundi 22 septembre 2014, le dénommé Ahmed R se présente à la gendarmerie de Belfort. Une série d'émissions télé se sont succédées ces derniers mois, au cours desquelles est parfois apparu le visage flouté du meilleur ami, Christophe Blain. Ahmed R a alors fait le lien avec une histoire qui remonte à 94, l'année où le crime a eu lieu. Cette année-là, il était élève au collège Vauban. Un surveillant prénommé Christophe lui a proposé un jour 10 000 francs pour tuer un homme. Il avait, semble-t-il, choisi Ahmed car ce dernier mesurait déjà 1,90 m et avait une réputation de caïd. Le témoin dit que sur le moment, il a cru à une plaisanterie. Mais ce Christophe, dont il ignore le nom, a insisté. « Pour tuer cet homme, il m'a promis que je serais payé en deux fois pour ne pas attirer l'attention de la police. Il ne m'a pas dit qui devait être tué, mais il était question d'utiliser un couteau », ajoute le témoin. Le 3 juillet 1994, il se souvient exactement de la date, car c'était le dernier jour du festival des Eurockéennes, à Belfort. Christophe lui a téléphoné. Il m'a dit de me rendre dans le bois dessert où l'homme allait passer. Ahmed R n'a pas donné suite. Le lendemain, c'est effectivement à cet endroit que Stéphane Dietrich a trouvé la mort. Christophe Blain était bien surveillant au collège Vauban, à l'époque indiqué. Ahmed l'identifie sans hésitation sur les photos présentées par les enquêteurs. Les policiers repartent sur la piste de Christophe Blain, un homme qui a désormais 45 ans et travaille dans le Var comme agent immobilier. Ses anciennes relations décrivent pour certaines un homme jaloux, possessif, agressif, harcelant. Un jeune garçon a déposé plainte contre lui il y a une dizaine d'années pour agression sexuelle, affaire qui s'est terminée par un non-lieu. Les témoins parlent encore d'un individu des plus secrets. À aucun de ses proches, il n'a parlé de Stéphane Dietrich et encore moins du crime de 94. Une seule fois, alors qu'il était ivre, il aurait prononcé ces mots devant un ami. « J'ai fait quelque chose de pas très catholique ». Il avait alors fait allusion à la carte bancaire de Stéphane Dietrich ainsi qu'à un couteau. Une expertise psychocriminologique de la scène de crime est alors demandée par le juge d'instruction. Le rapport indique que les trois plaies au thorax étaient destinées à tuer. Le cœur était visé. La victime a été agressée par surprise et n'a pas pu se défendre. Le rapport précise que l'arme utilisée pour tuer, genre couteau de chasse, signe à elle seule la préméditation. 15 décembre 2015, Christophe Blain est interpellé. Et on va voir ce que va raconter Christophe Blain, une confrontation qui va tout changer. Il va y avoir des aveux, des explications, mais lesquels? Pourquoi ces 11 coups de couteau? Pourquoi ces aveux si tardifs? Eh bien, ce sera dans le programme à suivre de l'heure du crime. On revient pour le moment à ce qui a remis la justice sur la piste de Christophe Blain. Avec déjà une question pour vous, Sylvain Dietrich. Vous êtes le frère de Stéphane Dietrich et vous êtes avec nous dans le studio de l'heure du crime. Pourquoi avec votre famille vous décidez d'aller voir le procureur de Montbéliard parce que c'était important, vous aviez des choses à lui dire?
Non, c'est lui qui nous invite à venir. Il avait des dossiers qu'il appelait les dossiers en souffrance.
Non élucidés,
ça porte bien son nom, Marion, clin d'œil. Et donc, il nous reçoit avec maman, mon père étant décédé depuis. Et il a, si vous voulez, été vraiment intéressé par la personnalité de mon frère, et il disait ça ne colle, enfin pour lui rien ne collait de tout ce qui avait
alors
été...
Alors ça c'est important parce que ça s'appelle, c'est du flair quasiment, du magistrat.
C'est tout à fait, et c'était, je vais donner son prénom et son nom, c'est Alexandre Chevrier.
Très bien.
Qui nous a reçus, parce que vous savez, quand on est famille de victimes, la justice, parfois on est fâché contre elle, parce que ça n'avance pas assez vite.
Je suis tout à fait d'accord, et là c'est une preuve d'humanité, il vous a ouvert les bras et il vous a dit je vais vous écouter et on va parler ensemble de votre affaire, ça c'est formidable. Et effectivement, vous avez raison de citer son nom, parce que ça c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est très bien. Marion Garnier, alors vous êtes rédactrice en chef de l'émission Non élucidée, RMC Story, et puis auteur avec Cyrielle Adam, qui est également notre invité aujourd'hui, de ce livre Cold Case au pluriel, qui sort aux éditions Larousse, dans lequel vous évoquez cette affaire Dietrich. Alors, il y a un concours de circonstances, il faut un petit peu en dire un mot, pour que l'affaire rebondisse. Parce que lorsque Ahmed R vient témoigner, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à la télé.
En fait, quand il vient témoigner, nous, quelques mois avant, on a réalisé une émission non élucidée, qui est l'émission d'Arnaud Poivre d'Arvor, avec l'accord de la famille de Stéphane Dietrich, donc Sylvain et sa maman. On a réalisé une émission dans laquelle on a évoqué la piste amicale, c'est-à-dire on a raconté pourquoi est-ce que Christophe Blain au début a été soupçonné, comment est ce garçon, quels liens ils avaient tous les deux, et expliqué comment en fait les enquêteurs sont arrivés dans une issue. Et on a diffusé une photo floutée. Il se trouve que ce travail de médiatisation produit un effet assez rapide, parce qu'au même moment, Sylvain, qui n'a jamais arrêté de distribuer des flyers sur lesquels il y a la photo de son frère, si vous avez des témoignages sur ce meurtre, si vous savez ce qui est arrivé, eh bien, un jour, cet individu qui va présenter son témoignage a vu l'émission, voit le flyer, et dit, mais en fait, en fait, oui, le meurtre de Stéphane Dietrich, ça me fait penser à l'histoire de ce pion qui m'avait proposé de tuer quelqu'un. Et la photo que j'ai vue floutée, ce qu'on voit, la photo, c'est une silhouette avec les cheveux mi-longs appuyés contre un arbre. C'est vrai que si on connaît le garçon, et en fait, il reconnaît, il dit, ça, c'est un témoignage important, je vais le livrer. Évidemment que ça intéresse tout de suite les enquêteurs.
Et effectivement, et c'est le témoignage capital qui va
c'est
faire.
C'est ce qui leur manque, pour le faire craquer, Christophe Blain.
Voilà. Cyrielle Adam, vous êtes donc la co-auteure avec Marion Garnier du livre Cold Case. On peut dire que ça vient 20 ans après, ce témoignage, c'est très tardif, mais finalement, il y a toujours un espoir dans une enquête criminelle.
Ah, mais cette affaire, elle prouve que... Aujourd'hui, on en attend souvent beaucoup de la science. Cette affaire, elle prouve que même 20 ans après, on peut avoir un témoignage
humain
crucial et qui va venir tout changer, qui est le dernier maillon manquant pour assembler toutes les pièces.
Et là, c'est l'illustration parfaite, parce que Ahmed, pendant des années, il n'y a pas pensé à cette histoire.
Non, il l'a même complètement oublié. Il le dit d'ailleurs. C'est vraiment l'émission et le flyer qui lui fait dire je connais. D'ailleurs, j'ajoute quand même que dans l'émission, Christophe Blain n'est pas présenté comme étant. On ne lui donne pas son prénom.
Il y a un faux prénom.
C'est ça. En fait, on donne un faux prénom pour préserver la présomption d'innocence. Et du coup, quand le témoin arrive, quand Ahmed arrive, il dit. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il parle du pion, mais
c'est ce
qui est
bon
bizarre,
prénom.
C'est que nous on l'appelle Patrick dans l'émission, moi il s'appelait pas Patrick, il s'appelait Christophe.
Enfin bon, là on voit vite qu'effectivement là, ça va être découvert et que son vrai prénom va sortir et Ahmed dit la vérité, effectivement, il raconte des choses véridiques. Sylvain Dietrich, le frère, je le rappelle, de Stéphane Dietrich, lorsqu'il est arrêté, Christophe Blain, vous pensez à quoi ? Quelle est votre réaction ?
Je me dis, tous ces anonymes, toutes ces personnalités aussi, du monde du spectacle et autres, et toutes ces émissions faites, ce bâton de pèlerin qu'on a pris, ça a servi. Et ça peut être aussi un exemple pour d'autres familles qui vivent effectivement un désarroi total parce que abandonnées, parce que nous, notre moteur, si vous voulez, par rapport à l'événement, c'était une colère maîtrisée, mais un combat. On l'a fait dans un combat, une association.
Mais c'était jamais agressif, c'est ça ?
On essayait d'être opposé. C'était pas, mes parents n'étaient pas des gens agressifs, loin de là.
Bien sûr. Mais lorsque on vous dit, ça y est, cette fois, il est arrêté, évidemment, vous aviez des doutes sur ce garçon, vous l'avez dit au procureur.
Sur les propos, sur la vérité de ce qu'il affirmait sur la fête foraine que j'expliquais tout à l'heure, et puis sur le fait qu'on parlait d'argent tout à l'heure, il avait vraiment des besoins d'argent très importants, et c'est vrai que Stéphane l'a énormément aidé et lui l'a conseillé. Mais c'était pas lui pour faire un business, c'était parce qu'il aidait ses amis. Voilà.
Le suspect va passer aux aveux et évoquer une amitié forcée et trahie.
On va passer au crible la vie de Monsieur Blain et on va découvrir que c'est une vie où il évolue assez vite d'un comportement plutôt charmant à un comportement violent, jaloux, avec une problématique d'emprise.
Mardi 15 décembre 2015, Christophe Blain, 46 ans, est placé en garde à vue. Il maintient ses déclarations, il est étranger à ce crime, puis il s'enferme dans le silence. On le confronte à Ahmed R., l'ancien collégien qui l'aurait sollicité à l'époque pour poignarder un homme. Blain va alors rapidement passer aux aveux. Selon lui, tout remonte en 1989. Il raconte que Stéphane Dietrich avait des penchants homosexuels et a commencé à être oppressant. Deux ans plus tard, Dietrich lui a confié qu'il était amoureux de lui. Blain indique avoir été sous pression et avoir cédé un temps à ses demandes. Stéphane serait devenu de plus en plus intrusif dans sa vie, allant même jusqu'à le menacer s'il ne cédait pas à ses desiderata. Il n'a plus supporté cette situation et a décidé d'en finir avec cet ami. Deux à trois semaines avant le crime, il a effectivement sollicité Ahmed R. Sans succès. Le 4 juillet 1995, dans l'après-midi, il est donc parti acheter un couteau dans une armurerie de Mulhouse. Le soir, j'ai revu Stéphane. Il était content de partir en vacances. Je l'ai conduit dans le bois, je l'ai déshabillé pour qu'il se laisse aller. Je l'ai poignardé, raconte Blain. Selon lui, Stéphane n'a pas eu de réaction. Il lui aurait seulement murmuré en tombant « Je t'aime » ou « Je t'aimais ». Christophe Blain est mis en examen pour assassinat. Vendredi 8 janvier 2015, Christophe Blin explique au juge d'instruction qu'il a été victime d'un engrenage. S'il avait acheté le couteau, c'était avant tout pour faire peur à Stéphane. Il n'avait pas l'intention de s'en servir. Une dispute anodine à propos de leur départ en vacances aurait déclenché son passage à l'acte. La maman de la victime, Rolande Dietrich, et son frère Sylvain s'insurgent contre cette présentation de Christophe, un garçon qui n'avait rien d'un harceleur. Et Sylvain Dietrich, vous êtes avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes le frère donc de Stéphane Dietrich. Et encore une fois, je le dis, pendant toutes ces années, c'est vous qui avez mené le combat pour cette vérité qui finit par éclater avec ses aveux. Alors il y a tout ce récit sur cette relation qui serait compliquée entre Blin et votre frère. Lorsque vous apprenez tout ça, ces aveux, on est là avant le procès. Vous apprenez tout ça, ce qu'il a raconté, cet homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites c'est un mensonge? Vous dites quoi?
Je dis que c'est, il se défend. Il essaie de se défendre et puis il sauve sa peau. Et donc, il salit quelqu'un qui l'a aidé dans plein de domaines. Et, pour moi, c'est tout, pour ma famille, comme pour tous les amis. Je veux dire, Stéphane, c'était pas quelqu'un qui harcelait. Pourquoi uniquement une personne? Moi, ce que j'ai revu, en revanche, c'est que quand le procès est arrivé, j'ai vu des gens qui sont venus témoigner. Et des gens qui sont des personnes qui se sont senties harcelées par Blin. Et donc, j'ai compris qu'il fallait faire le miroir inverse, si vous voulez, c'est une projection, ce qu'il disait. Alors après, il y a des psychologues qui ont parlé, et il y a notamment une femme qui a très bien expliqué certaines choses. Oui.
Mais vous ne reconnaissez pas votre frère dans ce portrait qui
non,
est fait par Blin?
Bah, pas du tout.
Votre frère, il y avait d'autres amis, évidemment, qui vont venir témoigner, on le verra ça au procès, mais il n'est pas dans cette logique de harceler, même physiquement ou non, de...
Il est, déjà, je dirais, physiquement, il n'a pas le gabarit de Blin, qui est beaucoup plus imposant.
Plus sportif.
C'est pas le genre... c'est le genre à toujours aider les autres. Parce qu'il a eu des exemples. Mes parents qui ont toujours été altruistes avec les autres. Et donc, je dirais peut-être que, en le concernant, les chiens ne font pas des chats. Et c'était quelqu'un qui était vraiment à l'écoute des autres et qui les aidait. Et sans aucune attente en retour.
Et cette histoire alors d'homosexualité, il faut en dire un mot quand même, parce que Blin, il dit qu'il était homosexuel, etc. Est-ce que vous étiez au courant de l'homosexualité de votre frère?
On se disait tout avec mon frère, Jean-Alphonse, et je veux dire, il aurait eu un penchant, quelque chose, il me l'aurait dit.
C'est ça.
Ou un coup de cœur.
Oui, bien sûr.
Et dans ma famille, parce que souvent j'ai entendu beaucoup de choses, dans ma famille, mes parents étaient très tolérants.
Il n'y avait pas de tabou, c'est ça?
Il n'y avait aucun tabou. Il n'y en avait pas pour moi, il n'y en avait pas pour mon frère, si vous voulez.
Non, mais c'est important.
Donc, c'est important parce que, si vous voulez, on entend... Bien sûr, la personne... Et il faut replacer aussi des fois dans le contexte. On a entendu votre brillante journaliste pour les infos tout à l'heure. Et à un moment donné, il faut penser aussi que l'actualité, pour les gens qui, en quelque sorte, aident les coupables à s'en sortir, ils peuvent surfer sur des actualités. Il y avait Weinstein, l'affaire Weinstein, on entendait que ça, à ce moment-là, pendant le procès. Et puis aussi des problèmes dans l'église. Donc, si vous voulez... Il y a des gens aussi très habiles qui surfent aussi sur des choses. Et donc, si vous voulez, pour nous, c'était clair que quand on regarde toutes les auditions qu'il a faites, c'était très très soft au début. Et il a été jusqu'à dire que mon frère l'avait harcelé plus de 500 fois.
Oui, c'est ça. Il va dire qu'effectivement, il était sous une pression intenable. Marion Garnier, vous êtes co-auteur avec Cyril Adam du livre Cold Case, qui sort aujourd'hui d'ailleurs aux éditions Larousse. Et dans ce livre, vous parlez de cette histoire. Est-ce qu'il y aurait un autre mobile, finalement, pour expliquer ce coup de colère de Blin? Parce que lui, il axe tout sur cette relation.
C'est très compliqué. En plus, c'est vraiment... ça n'est pas un meurtre, c'est un assassinat. Il a acheté le couteau.
Il l'a préparé.
Il l'a préparé. Donc, on n'est pas dans le coup de colère, dans le coup de sang. Alors, quel était le mobile? Est-ce que Christophe Blin était jaloux de Stéphane Dietrich? Jaloux de Stéphane Dietrich, qui réussissait mieux, qui était mieux entouré? C'est possible. C'est difficile. Je pense qu'on ne sait pas exactement. Christophe Blin a beaucoup changé de version.
Et donc, on n'a pas...
On ne sait pas exactement.
4 ans plus tard, Christophe Blin va comparaître aux assises. Lundi 14 janvier 2019, Christophe Blin, 49 ans, visage fermé, pull gris et cheveux poivre sel, est devant la cour d'assises de la Haute-Saône et de Belfort à Vesoul. Il ne fait aucune difficulté à reconnaître le crime. Il raconte qu'il était sous emprise de Stéphane depuis 4 ans. J'étais à sa disposition, son objet sexuel. L'une des avocates de la partie civile, Claire Doublier, s'étonne que Stéphane Dietrich, qui faisait 20 cm de moins que Blin et qui n'avait jamais menacé personne, ait pu imposer sa loi. Réponse, il était brillant, il m'impressionnait. Blin ajoute, je sais que dans l'histoire, la victime, c'est Stéphane. Le capitaine de police Laurent Dumont estime que Christophe Blin n'a pas su dire non à une relation avec une victime qui l'écrasait de sa personnalité. Il a choisi la pire des solutions pour mettre un terme à cette amitié. La mère et le frère de Stéphane Dietrich démentent toute liaison amoureuse entre les deux hommes et toute forme de harcèlement. 18 janvier, les jurés répondent oui à la préméditation. Christophe Blin est condamné à 20 ans de prison. Et dans cette heure du crime, nous avons parmi nos invités Sylvain Dietrich, vous êtes le frère de Stéphane. Évidemment, vous êtes aux premières loges à ce procès avec votre maman. Vous assistez à ces débats. Ces débats qui sont douloureux pour votre famille. Parce que, pour votre mère, évidemment, vous allez nous en dire un mot, mais pour tout le monde, parce que il faut le défendre, votre frère, finalement. C'est lui la victime, mais on a l'impression qu'il faut le défendre, parce que l'accusé, il se laisse pas faire. Il dit c'était un harceleur. Pendant 20 ans, il m'a imposé son calvaire sexuel, c'est ce qu'il dit.
Tout à fait. Et c'est là, pour maman, c'est sûr que quand on se trouve face à un procès, c'était quelque chose de très douloureux pour elle. Elle était contente de l'aboutissement de la recherche, mais d'entendre au début la personne, c'est le coupable qui parle, bien sûr, qui s'exprime, et qui attaque sans arrêt. Mmh. Un petit adjectif sympathique contre 100 qui sont horribles. Mmh. Et c'est incroyable, parce qu'on se demande si c'est cette personne-là qui s'invitait lui-même à midi moins 10 chez nous.
Vous ne le reconnaissez pas ?
Non.
C'est ça ?
Non. Mmh.
C'est un autre homme que vous expliquez là.
C'est quelqu'un d'autre, et je fais référence aussi à d'autres, parce que je ne veux pas non plus parler que de mon frère, mais je pense aussi à d'autres personnes qui ont témoigné, des personnes dont il a abusé comme au niveau de cette force physique qu'il avait, et où on était choqués parce qu'on a appris des choses justement pendant le procès. Mmh. Et on a vraiment été impressionnés d'ailleurs de voir qu'il avait agressé énormément de monde.
Cyrielle Adam, je reviens vers vous. Vous êtes co-auteur avec Marion Garnier, toutes les deux nos invités aujourd'hui, du livre Cold Case qui sort aujourd'hui aux éditions Larousse. Cyrielle Adam, les policiers le croient, finalement, cet homme en garde à vue et lors des interrogatoires, lorsqu'il dit j'étais sous emprise.
Ce que les enquêteurs disent, en tout cas, c'est qu'ils ont l'impression que cette confrontation, vous l'avez dit, elle est décisive. Mmh. C'est-à-dire qu'ils voient que tout à coup, Christophe Blin change d'attitude et qu'il leur dit « Ok, je vais tout vous dire ». Donc tout à coup, on a l'impression qu'il est...
Libéré ?
Il soulage quelque chose, en tout cas. Après, son honnêteté, elle se base pas sur des éléments concrets du dossier, en fait. Alors c'est sa parole contre la parole de la victime qui n'est plus là pour donner sa vérité.
C'est ce que dit Sylvain Dietrich. Après tout, il peut inventer un scénario pour se sauver lui-même. Marion Garnier, on peut voir les choses comme ça aussi. Alors, il a besoin, pas de se justifier, évidemment, mais de se donner des raisons.
Oui, mais alors même, dès le début, on sait qu'il a donné 11 coups de couteau. Et dès le début, il dit « Je me souviens du premier coup de couteau et ensuite, je n'ai souvenir de rien ». Donc, en fait, il raconte assez peu de choses. Il admet avoir été acheter le couteau. Il raconte, dans un premier temps, que le soir, il devait parler de sa famille. Et puis après, qu'il voulait dire qu'il voulait pas partir en vacances. Il raconte cette histoire de relation sexuelle comme d'une relation qui se serait bien passée, qui arrivait au bout. Et puis, d'un seul coup, il parle de harcèlement. Il est parti, il purge actuellement sa peine de prison avec son mobile que lui seul connaît en réalité.
Il est un peu difficile à suivre. Sylvain Dietrich, juste un mot, lorsque il y a le verdict qui tombe, 20 ans de prison, votre réaction ?
C'est donc l'aboutissement de ce long combat mené.
Vous dites c'est fini ?
Pas tout de suite, puisque vous savez qu'il peut faire appel.
Évidemment.
Donc voilà, vous avez toujours ça, le glaive au-dessus de la tête, il ne fait pas appel. Et je pense que dans la salle, les gens étaient très satisfaits.
Il y avait une logique, c'est ça ?
Il y avait une logique, et puis, mais une logique aussi face aux mensonges et aux pleurs, parce qu'on a eu droit aussi aux seuls pleureurs. C'est nous qui sommes victimes. On a eu, je pense, et notamment je rends hommage à ma maman qui n'est plus là, il y a eu une dignité de sa part que lui n'a pas eue.
Christophe Blin ne fait pas appel, le dossier se referme.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
En 1996, deux ans après la mort violente de son frère Stéphane, Sylvain Dietrich avait créé une association pour aider à la recherche de la vérité, affaire qui n'aura dès lors cessé de mobiliser la famille. Paul Dietrich, le papa, rongé par le drame, est décédé sans avoir connu la vérité. Bien avant d'être rattrapé par la justice, Christophe Blin avait un jour confié au téléphone à une amie qu'il avait des idées noires et ne dormait plus depuis qu'il avait fait quelque chose de grave. Était-il rongé par la culpabilité ?
Je dirais tout simplement, avec ma maman, on a deux sensations. La première pour ma maman, c'est que de toute façon Stéphane ne reviendra plus. Et que pour une maman, c'est pas le nombre d'années qui change la donne. Pour moi, j'estime que pour le combat qui était mené, c'est effectivement une grande avancée pour rendre justice à Stéphane.
Et cette voix, c'est la vôtre, Sylvain Dietrich. C'est après la condamnation de Christophe Blin. Un mot, Sylvain Dietrich, parce que c'est important. On dit que ce sont souvent les familles qui se substituent à la justice. Et c'est hélas le cas, très souvent, dans certains cas. Ce combat, vous l'avez porté pendant 20 ans. Comment peut-on porter un tel poids et s'engager dans une telle croisade aussi longtemps ? C'est très compliqué. Vous avez mis votre vie de côté pendant toutes ces années.
Je trouvais ça naturel. Je trouvais que l'événement était tel par rapport au drame familial que nous vivions. Mm-hmm. Je me voyais pas continuer ma vie comme si c'était rien passé. Et je voulais être utile, tout comme mes parents, pour Stéphane et aussi pour d'autres. Parce que je me suis dit, il y a nous qui vivons des choses incroyables, mais d'autres vivent aussi ça. Et c'était porté, et puis c'est pour ça que j'ai rencontré pas mal de personnalités politiques, des présidents de la République et aussi des ministres de la justice régulièrement.
Vous êtes allé frapper à toutes les portes.
Et des recommandés, et je les ai embêtés. Vous voyez ?
Mais pour la bonne cause.
Pour la bonne cause et pour les autres aussi. Parce que Les Colquaises et le beau livre que Cyrielle et Marion viennent d'écrire, le titre, si vous voulez, on fait partie des gens aussi qui avons milité pour qu'il y ait justement aussi un service qui gère les Colquaises. Quand des crimes sont difficiles, tout ne peut pas être simple. On comprend tout à fait. Mais il faut justement s'armer et effectivement qu'il y ait un glaive au-dessus de la tête des coupables.
Et puis il y a cette association que vous aviez créée.
En 96,
ça, c'est important, ouais. Parce qu'il y a des familles qui créent des associations. On dit tout ça, c'est vain, ça sert à rien. Mais non, vous avez mobilisé aussi beaucoup d'énergie.
Énormément de monde. Et puis je dois remercier aussi RTL. Moi, je suis un enfant d'RTL. Et
parce que vous êtes dans la région Est, c'est ça.
Et si vous voulez, je sais que on a vraiment été soutenu, et vous avez aussi médiatisé, nationalisé, en quelque sorte fait connaître au niveau de la France, bien sûr, ce qui s'est passé chez nous.
Et c'est pour ça qu'il faut répéter. Vous avez eu une action qui était positive, mais il faut toujours dire que il faut parler des affaires. Il faut continuer à en parler, même quand on pense que c'est fini, que la justice n'agit pas, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas les oublier. Dès lors qu'on n'en parle plus,
exactement,
c'est fini et ça tombe aux oubliettes. Marion Garnier, alors vous êtes co-auteur du livre dont on vient de parler avec Cyrielle Adam, du livre Cold Case qui sort aujourd'hui aux éditions Larousse. Il faut lire ce livre où il y a plein d'histoires de Cold Case, et puis vous évoquez également ce dossier. Un petit mot, la prescription. Elle était toute proche quand Christophe Blin a été arrêté. On n'était pas loin. Hein.
La prescription était toute proche, d'autant plus qu'on est avant la loi de 2017 qui fait passer la prescription à 20 ans après les crimes. Donc effectivement, on n'était pas loin. Donc c'est la preuve qu'en réalité, il ne faut jamais fermer les dossiers, il ne faut pas clôturer les instructions, même quand il ne se passe pas grand-chose, il suffit d'un petit acte pour éviter que la prescription court. Donc, il faut laisser les dossiers ouverts, parce que, on le voit, un nouveau témoignage peut toujours arriver 20, 30, 40, 50 ans après.
Et il faut le répéter, bien sûr, c'est très important.
Voilà.
Tout à fait, effectivement, vous faites, dans votre émission Non Élucidée, vous faites ce travail aussi de laisser vivant des dossiers qu'on croit parfois finis, où il n'y aurait plus rien à faire, mais il y a toujours des choses à faire et à vérifier. Cyrielle Adam, un petit mot, cette affaire, elle a
contribué, dit-on, à la création du Paul Cold Case. Elle a servi un peu de miroir pour cette création.
En tout cas, cette affaire, elle prouve qu'un dossier qui a pu être fermé, c'est-à-dire que c'est un dossier dans lequel la justice n'avait plus aucun espoir d'élucidation, peut être élucidé des années plus tard, et non pas grâce à l'ADN, qui aujourd'hui est un petit peu la reine des preuves, comme on aime le dire, mais aussi par un témoignage. Et ça, c'est primordial. C'est primordial. C'est primordial.
Alors ça, c'est un petit peu à l'ancienne, mais c'est la preuve que effectivement, ce que vous disiez, Marion, tout peut arriver.
C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un pôle judiciaire national avec des magistrats instructeurs, des enquêteurs qui seront et demander des nouvelles analyses, mais aussi accueillir ou obtenir de nouveaux témoignages.
Sylvain Dietrich, un mot, parce que je voudrais que cette émission, finalement, on peut la dédier à votre maman, parce qu'elle n'est plus là aujourd'hui, et elle a porté le combat avec vous.
Oui, c'est gentil de votre part. C'était quelqu'un qui aimait écouter les autres, était très discrète. Et oui, je pense à elle.
C'est ça. Et c'est grâce à elle aussi que cette affaire a pu aboutir. Merci beaucoup et infiniment, Sylvain Dietrich, d'avoir été aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime avec Cyrielle Adam et Marion Garnier. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vignon, préparation Marie Bossard, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.